Chronologie biblique, Père Philippe, Saint-Joseph, 4 décembre 84.
Nous allons continuer d'entrer dans ce grand mystère de Moïse et de voir la manière dont Moïse, sous l'action de Dieu, envoyé par Dieu, va délivrer le peuple d'Israël du joug du Pharaon. Alors, nous avions vu comment Dieu se sert de signes. C'est toute la théologie de la mission et du signe qui est là engagée, qu'on retrouvera ensuite dans saint Thomas. Saint Thomas se pose la question, est-il normal qu'un apôtre comme apôtre ait le pouvoir de faire des miracles? Dans quelle mesure faut-il que le point de vue de la mission soit lié au point de vue de cette capacité de faire des miracles? Parce que là, vous voyez que la mission est liée au nom, la révélation du nom, et la révélation du point de vue du miracle. Ce qui est tout à fait différent, et je crois que c'est ça qui est important à voir, ce qui est tout à fait différent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a quand même tout le temps à voir cette espèce de distinction entre la manière dont Dieu se forme le cœur d'un Abraham, d'un Isaac et d'un Jacob, et la manière dont Dieu se forme le cœur de Moïse. Ce deux éducations tout à fait différentes. Puisque pour Abraham, Isaac et Jacob, c'est avant tout la famille. C'est la sanctification de la famille. Et c'est à l'intérieur de la famille que se fait le message de Dieu. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de Moïse, c'est vraiment envoyé auprès de l'ennemi. Il y a là quelque chose de différent, de tout à fait différent. Le médiateur, parle-t-il, doit sauver le peuple d'Israël du joug du démon. Le démon étant ici le pharaon. Alors ça explique du reste comment Moïse a besoin de signes. Les signes sont donnés pour les incroyants. Et les signes sont nécessaires pour les incroyants. Le croyant comme tel ne demande pas de signes et n'a pas à demander de signes. Évidemment, le croyant est toujours aussi un incroyant. Il porte toujours un petit incroyant en lui. Alors, parce qu'il porte toujours un petit incroyant en lui, pour l'incroyant qui est en lui, il peut réclamer. Mais il faut faire attention. Zacharie a demandé un signe, et ça a été un signe pénal. Si chaque fois que vous demandez un signe à Dieu, et que Dieu vous manifeste qu'il ne veut pas vous demander de signe, et qu'il vous donne un signe pénal, ça vous corrige très vite. Ça, c'est sûr. Pendant 6 mois, vous garderez le silence complet. Successivement, ça pourrait arriver comme ça. Mais ce serait très, très efficace. Dieu agit autrement. Parce que Dieu veut, au plan de l'amour substantiel, de la grâce substantielle, que notre liberté soit toujours libre. Et de plus en plus libre. Et c'est ce qui explique comment, à l'intérieur de la conversion d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'y a pas le même lien avec les signes, avec les miracles. Tandis qu'ici, il s'agit de l'attitude vers le Pharaon. Yahvé dit à Moïse, à Aaron, lorsque Pharaon vous parlera, nous l'avions déjà vu ça, on va continuer, je crois. Oui, on avait vu la première plaie d'Égypte, d'abord le serpent, le bâton changé en serpent, puis l'eau changée en sang. Yahvé dit à Moïse, le cœur de Pharaon est appesanti. Il a refusé de renvoyer le peuple. Va vers Pharaon le matin. Justement, il sortira vers les eaux. Tu te tiendras debout pour l'attendre sur la rive du Nil. Et tu prendras dans ta main le bâton qui s'est changé en serpent. Tu lui diras, Yahvé, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, renvoie mon peuple pour qu'il me serve au désert. Et voici que jusqu'à présent, tu ne l'as pas écouté. Ainsi parle Yahvé. À ceci tu sauras que je suis Yahvé. Voici que moi, du bâton qui est dans ma main, je vais frapper sur les eaux qui sont dans le Nil. Elles se changeront en sang. Et les poissons qui sont dans le Nil mourront. Et le Nil deviendra infect et les Égyptiens devront renoncer à boire l'eau du Nil. Yahvé dit à Moïse, dis à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rives, sur leurs canaux, sur leurs étangs, sur tout leur amas d'eau, et qu'elle soit du sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, même dans les arbres et dans les pierres. Moïse et Aaron firent ainsi que l'avait commandé Yahvé. Aaron leva le bâton et frappa les eaux qui étaient dans le Nil, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Toutes les eaux qui étaient dans le Nil se changèrent en sang. Et les poissons qui étaient dans le Nil moururent. Le Nil devint infect et les Égyptiens ne purent boire l'eau du Nil. Il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs pratiques occultes. Le cœur de Pharaon s'obstina et n'écouta pas Moïse et Aaron. Selon ce qu'avait dit Yahvé. Pharaon se tourna et rentra à sa maison. Et de cela non plus, il ne tint aucun compte. Tous les Égyptiens creusèrent aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du Nil. 7 jours s'accomplirent après que Yahvé eut frappé le Nil. Là, vous voyez la symbolique de l'eau changée en sang. Quand vous voyez Cana. Donc, il y a comme une espèce de double transformation. Parce que ça, c'est évident qu'il y a là des... L'écriture doit se lire à travers l'écriture. Hein, et les symbolismes de l'écriture doivent s'expliquer par les symbolismes de l'écriture. Toujours. En premier lieu, plus qu'en faisant appel à la culture du temps. C'est second, ça. Mais pour la culture du temps, on n'avait pas beaucoup d'exemples que l'eau du Nil soit changée en sang. Si ce n'est, vous donnerez des explications tout à fait secondaires. Là, on voit l'intervention de Dieu. C'est dit, du reste, textuellement. Il n'y a pas de lieu de ne pas dire qu'il y a l'intervention de Dieu directe. C'est que Dieu veut que le Pharaon convertisse son cœur. C'est ça l'intention profonde. Et le Pharaon ne veut pas convertir son cœur, mais il a peur dès que Dieu intervient. Alors on voit bien ici l'intervention de Dieu est nette. C'est que transformé en sang, le Nil ne joue plus pour l'Égypte et les Égyptiens son rôle d'être source de fécondité. Vous voyez, les eaux des Égyptiens, c'est le Nil. Hein, et le Nil, ça fait partie intégrante de ce que représente l'Égypte. Et on frappe là la source de la vie. L'eau, c'est condition sine qua non pour qu'il y ait vie. Donc symbolise de la vie. est transformé en sang. Le sang, c'est le fruit de la lutte. Le sang versé, c'est le fruit de la lutte, c'est le fruit du crime. Alors ce qui est source de fécondité devient source de division. Et la fécondité disparaît. Parce que Dieu n'est plus reconnu comme Dieu. On ne respecte pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du Père qui n'est pas respectée. Et c'est cette volonté du Père qui n'étant pas respectée fait que nécessairement il ne peut plus y avoir cette alliance fondamentale. Yahvé dit à Moïse, rends-toi vers Pharaon, tu lui diras, ainsi parle Yahvé, renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de le renvoyer, voici que moi, je vais infester de grenouilles tout ton territoire. Le Nil pullulera de grenouilles. Alors ça changeait en sang, changeait en grenouilles. Non, c'est quelque chose de magnifique. Le Nil pullulera de grenouilles. Elles monteront et entreront dans ta maison et dans ta chambre à coucher. Et sur ton lit et dans la maison de tes serviteurs et de ton peuple et dans tes fous. Et dans tes pétrins, et sur toi et sur ton peuple, et sur tes serviteurs, maintenant, monteront les grenouilles. C'est aussi très curieux, symbolise les grenouilles. Hein. Symbolise les grenouilles. Alors, il faut regarder aussi avec l'Apocalypse. Hein. Parce qu'on voit un changement de l'eau en sang. C'est toujours le point de vue de l'intervention directe de Dieu pour montrer que Dieu intervient directement par rapport à la fécondité. Les grenouilles, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Alors, quel est le pouvoir des grenouilles? Il y a les sauterelles et les grenouilles. Les sauterelles, c'est plus facile à comprendre. Hein. Les grenouilles, c'est lié aussi à l'eau. Et que, quand les grenouilles passent, il ne reste plus rien derrière. Hein. C'est connu, c'est comme les sauterelles. Yahvé dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les canaux, sur les étangs, fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux d'Égypte. Les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Les magiciens en firent autant par leur pratique occulte. C'est très curieux de voir ça, hein. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'accompagnement par les magiciens. Ils suivent. Hein. Ce n'est pas eux qui prennent l'initiative, ils suivent. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron. Il leur dit, implorez Yahvé pour qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple. Et je renverrai le peuple pour qu'il sacrifie à Yahvé. Donc, première brèche. Jusque-là, aucune brèche. Ici, une première brèche. Il y a au moins un moment de conversion. C'est déjà quelque chose. Une résolution de se convertir et d'obéir à Dieu. Moïse dit à Pharaon, fais-moi l'honneur de me dire quand je dois implorer pour toi, pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin de supprimer les grenouilles de chez toi et de tes maisons, de sorte qu'il en reste seulement dans le Nil. Demain, dit-il, Moïse dit, il en sera selon ta parole, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme Yahvé notre Dieu. Les grenouilles s'écarteront de toi, de tes maisons, de tes serviteurs, de ton peuple, de sorte qu'il en restera seulement dans le Nil. Moïse et Aaron sortir de chez Pharaon. Et Moïse cria vers Yahvé au sujet des grenouilles qu'il avait infligées à Pharaon. Yahvé agit selon la parole de Moïse. Les grenouilles. Moururent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux et le pays en fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, apesantit son cœur. Il n'écouta pas Moïse à Aaron, selon ce qu'avait dit Yahvé. Et la bonne résolution qui ne dure pas. Yahvé dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre pour qu'elle devienne des moustiques dans tout le pays d'Égypte. » Vous voyez là, toujours la génération spontanée, il y a un petit peu de ça derrière. La génération spontanée des eaux et des grenouilles, la génération spontanée de la poussière et des moustiques, hein. C'est les deux images. Alors, évidemment, ce n'est pas du tout la génération spontanée qui est mise ici. Hein. C'est l'intervention directe de Dieu. Mais l'image demeure. Hein. C'est très curieux. Parce que Albert le Grand croyait encore à la génération spontanée, et saint Thomas aussi, des grenouilles. Ça fait partie de la génération spontanée, ça. Puisque quand vous regardez attentivement autour d'un étang, il n'y a rien du tout. Vous ne voyez rien du tout, et à cause de la chaleur du soleil, au bout d'un certain temps, ça commence à grouiller. Donc, génération spontanée. Parce qu'ils ne voyaient pas les œufs, évidemment. C'est dans ce sens-là que la terre, la matière, est une matière vivante qui cache quelque chose qui est virtuellement invivant. Alors, ça reste, hein. C'est très ancien, cette génération spontanée. L'eau et les grenouilles, la poussière et les moustiques. C'est ça qu'on vous dit qu'il faut avoir des cellules propres. Parce que autrement, de la poussière naîtront des moustiques et des vers. Alors, il faut faire attention. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Il y eut des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre fut des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens en firent autant par leur pratique occulte pour faire sortir les moustiques et ils ne purent. Il y eut les moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Les magiciens dirent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu ». Le cœur de Pharaon s'obstina et n'écouta pas Moïse et Aaron, selon ce qu'avait dit Yahvé. Yahvé dit à Moïse, « Lève-toi de grand matin et présente-toi devant Pharaon. Justement, il sortira vers les eaux. Tu lui diras, ainsi parle Yahvé, renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Que si tu ne renvoies pas mon peuple, voici que j'enverrai les temps sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple, sur tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront pleines de temps, et même le sol sur lequel ils se trouvent. Mais ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen, où mon peuple se tient, pour qu'il n'y ait point là de temps, afin que tu saches que moi, Yahvé, je suis au milieu du pays. Donc là, quelque chose de particulier pour que Pharaon comprenne mieux. Vous voyez, les signes deviennent de plus en plus précis, sélectifs, déterminants. J'établirai une différence entre mon peuple et ton peuple. C'est demain qu'aura lieu ce signe. Yahvé fit ainsi. Il vint des temps en nombre immense dans la maison du Pharaon, dans la maison de ses serviteurs, et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut ravagé par les temps. Pharaon appela Moïse et Aaron, et il dit, « Allez, sacrifiez à votre Dieu dans le pays. » Moïse dit, « Il ne convient pas d'agir ainsi. Les Égyptiens ont en abomination ce que nous sacrifions à Yahvé notre Dieu, et nous sacrifions sous leurs yeux ce que les Égyptiens ont en abomination. Ne vont-ils pas nous lapider ?» C'est à 3 jours de marche dans le désert que nous irons sacrifier à Yahvé notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Pharaon dit, « Je veux bien, moi, vous renvoyer pour que vous sacrifiez à Yahvé, votre Dieu, dans le désert. Seulement, ne vous éloignez pas trop dans votre marche. Implorez pour moi. » Il se convertit petit à petit un peu plus. Hein. Il y a toujours un petit progrès. Moïse dit, « Voici que moi, je vais sortir de chez toi. J'implorerai Yahvé. » Et demain, les temps s'écarteront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Seulement que Pharaon ne continue pas de se moquer en ne renvoyant pas le peuple pour sacrifier à Yahvé. Moïse sortit de chez Pharaon et implora Yahvé. Yahvé agit selon les paroles de Moïse. Il écarta les temps de Pharaon, de ses serviteurs, de son peuple. Il n'en resta pas un. Pharaon appesantit son cœur cette fois encore et ne renvoya pas le peuple. Vous voyez bien cette espèce d'éducation, hein, c'est la païdéia divine, hein, cette éducation à l'égard du Pharaon. C'est dur de convertir l'âme d'un Pharaon. Tout ça qui est impliqué dedans. C'est quasi impossible. Il tient tellement à ce que représente pour lui le peuple d'Israël, qui est tout simplement des ouvriers, une manœuvre qui ne coûte rien. Alors il est complètement aveuglé. Yahvé dit à Moïse. Alors voyez, en plus de ça, n'est pas vraiment le rôle de Moïse comme médiateur. Hein, parce que ça, on le verra de plus en plus. Et ici, on le voit au point de départ. Hein. Yahvé dit à Moïse, « Rends-toi vers Pharaon, tu lui diras. Ainsi parle Yahvé, le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Que si tu refuses de le renvoyer, et le retient encore, voici que la main d'Yahvé sera sur les troupeaux qui sont dans les champs, sur les troupeaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros et le petit bétail. Une peste très grave. Mais Yahvé fera une distinction entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne mourra rien de tout ce qui est aux fils d'Israël. Yahvé a fixé la date en disant « Demain, Yahvé fera cette chose dans le pays. » Yahvé fit cette chose dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent, mais les troupeaux des fils d'Israël ne moururent pas. Pharaon envoya voir et voici que des troupeaux d'Israël, il n'était mort pas une seule bête. Le cœur de Pharaon s'appesantit, et il ne renvoya pas le peuple. Yahvé dit à Moïse et à Aaron, procurez-vous 2 pleines poignées de suie de fournaise. et que Moïse l'éparpille vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra de la poussière sur tout le pays d'Égypte. Et elle deviendra sur les hommes et sur les bêtes des ulcères proliférant en pustules dans tout le pays d'Égypte. C'est tout à fait l'Apocalypse, hein. C'est très curieux, c'est intéressant parce que ça prouve très bien, mais ça montre bien que ce qui est repris dans l'Apocalypse, c'est comme symboliquement, c'est ça qu'on doit le regarder, comme symboliquement une action de Dieu qui corrige par le corps l'âme. Il agit sur le corps pour montrer sa toute-puissance et par là, il veut faire convertir. Ils prirent de la suie de fournaise et se tinrent devant Pharaon. Moïse éparpilla vers le ciel. Et il y eut des ulcères proliférants en pustules sur les hommes et sur les bêtes. Les magiciens ne purent se tenir devant Moïse à cause des ulcères. Là, ils pâtissent, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. Mais c'est curieux. Yahvé fit s'obstiner le cœur de Pharaon et n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce qu'il avait dit, selon ce qu'avait dit Yahvé à Moïse. Yahvé dit à Moïse, « Lève-toi de grand matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle Yahvé, le Dieu des Hébreux. Renvoie mon peuple pour qu'il me serve, car cette fois-ci, je vais envoyer tous mes fléaux sur ton cœur et sur tes serviteurs et sur ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne comme moi dans toute la terre. Si d'abord, j'avais avancé ma main, il avait frappé de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voici pourquoi je t'ai laissé survivre. C'est pour te faire voir ma vigueur, afin qu'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'opposes encore à mon peuple pour ne pas le renvoyer, voici que je vais faire pleuvoir demain, à la même heure, une grêle extrêmement lourde, telle qu'il n'y en a pas eu en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à présent. De mémoire d'homme, c'est tout à fait ça, depuis la fondation jusqu'à maintenant. Maintenant donc, envoie mettre à l'abri les troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. Tout homme et toute bête qui se trouveront dans les champs et n'auront pas été ramenés à la maison. La grêle s'abattra sur eux et ils mourront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de Yahvé, firent se réfugier dans la maison leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne tinrent pas compte de la parole de Yahvé laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Yahvé dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, pour qu'il y ait de la graine dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute l'herbe des champs au pays d'Égypte. » Moïse étendit son bâton vers le ciel et Yahvé produisit des tonnerres et de la graine. Un feu passa sur la terre. Et Yahvé fit pleuvoir de la graine sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle, ainsi qu'un feu jaillissant au milieu de la grêle. Une grêle extrêmement lourde, telle qu'il n'y en a pas eu dans le pays d'Égypte depuis qu'il est devenu une nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Toute l'herbe des champs, la grêle la frappa, et tous les arbres des champs, elle les brisa. Dans le seul pays de Goshen, là où étaient les fils d'Israël, il n'y eut pas de grêle. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de Yahvé firent se réfugier dans la maison leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne tinrent pas compte de la parole de Yahvé laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Yahvé dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, pour qu'il y ait de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, et sur toute l'herbe des champs au pays d'Égypte. Moïse étendit son bâton vers le ciel, et Yahvé produisit des tonnerres et de la grêle. Un feu passa sur la terre et Yahvé fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle ainsi qu'un feu jaillissant au milieu de la grêle. Une grêle extrêmement lourde, telle qu'il n'y en a pas eu dans le pays d'Égypte depuis qu'il est devenu une nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Toute l'herbe des champs, la grêle la frappa, et tous les arbres des champs, elle les brisa. Dans le seul pays de Goshen, là où étaient les fils d'Israël, il n'y eut pas de grêle. Pharaon envoya appeler Moïse à Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché. C'est Yahvé qui a raison. Et moi et mon peuple, nous avons tort. » Implorer Yahvé pour qu'on en finisse avec les tonnerres de Dieu et la grêle. Et je vous renverrai, vous n'aurez pas à rester. Moïse lui dit, dès ma sortie de la ville, je tendrai mes mains vers Yahvé, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à Yahvé. Mais toi et tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore devant Yahvé Dieu. Le lin et l'orge avaient été abattus, car l'orge était en épis et le lin en fleurs. Mais le blé et les poudres n'avaient pas été abattus, car ils sont tardifs. Moïse, voyez ces petits détails pour bien montrer à quelle époque, hein, c'est bien montrer la permission de Dieu. C'est toujours, vous savez, dans l'Apocalypse, il dit un tiers, un tiers, un tiers. C'est pour montrer que les fléaux de Dieu sont mesurés par la sagesse de Dieu. Et je crois que c'est la même chose qu'on trouve ici. Et Moïse sortit de chez Pharaon et de la ville. Il tendit ses mains vers Yahvé. Les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pêcher. Il appesantit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'obstina et ne renvoya pas les fils d'Israël selon qu'il avait dit, selon ce qu'avait dit Yahvé par le ministère de Moïse. Yahvé dit à Moïse, « Rends-toi vers Pharaon, car moi, j'ai appesanti son cœur et le cœur de ses serviteurs afin de placer ses signes au milieu d'eux, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens et quels signes j'ai mis chez eux pour que vous sachiez que je suis Yahvé. » Enfin, il faut remarquer là, au point de vue de la théologie du cœur, hein, l'importance. C'est le cœur qui est appesanti. Alors évidemment, le cœur contient aussi bien l'intelligence, mais c'est quand même quelque chose de plus affectif. Le cœur est appesanti. Il est dans la possibilité de reconnaître la vérité. Il est impossible, impossibilité de se mettre... Parce que c'est vrai, c'est terrible quand on voit ça. Et je crois que c'est exprès, c'est montrer la totalité des 10 plaies d'Égypte, hein, la totalité des 10 plaies d'Égypte, pour montrer quand le cœur de l'homme résiste, quand le cœur de l'homme puissant, c'est si difficile de convertir celui qui est puissant, celui qui a de grandes richesses, il est plus difficile un riche d'entrer dans le royaume que le chameau passé par le trou. On voit très bien, c'est ça qui nous est montré là, comme une grande leçon au point de départ que le peuple d'Israël va se constituer. Et c'est la séparation qu'il va y avoir entre l'Égypte et le peuple d'Israël. Les 10 plaies d'Égypte. Vous voyez, ça leur fait un surmoi assez puissant pour les Égyptiens. Les 10 plaies d'Égypte qui sont là pour montrer que Yahvé est avec Israël et que Yahvé ne tolère pas que l'Égyptien puisse dominer sur l'Hébreu. Moïse et Aaron se rendirent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle Yahvé, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi ?» Oui, Yahvé, Dieu des Hébreux, hein. « Renvoie mon peuple pour qu'il me serve. Que si tu refuses de renvoyer mon peuple, voici que je fais venir demain des sauterelles sur tout territoire. Sur tout ton territoire. Elles couvriront la face du pays. Et on ne pourra pas voir le pays. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé. De ce qui vous a été laissé par la grêle. Et elles dévoreront tout arbre qui pousse pour vous dans les champs. Elles rempliront les maisons de tous les serviteurs, les maisons de tous les Égyptiens, ce que n'ont pas vu tes pères, ni les pères de tes pères, depuis qu'ils sont sur le sol jusqu'à ce jour. » Bah, il se retourna et sortit de chez le Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il un piège pour nous ?» Le peuple commence à comprendre. Hein. « Renvoie ces gens pour qu'ils servent Yahvé, leur Dieu. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte périt ?» On fit revenir Moïse et Aaron chez Pharaon, qui leur dit, « Allez, servez Yahvé votre Dieu, mais quels sont ceux qui iront ?» Il dit, nous irons avec nos jeunes gens, avec nos vieillards, nous irons avec nos fils, avec nos filles, avec notre petit et avec notre gros bétail. C'est indispensable pour les processions, n'est-ce pas ? Car c'est pour nous une fête de Yahvé. Pharaon leur dit, que Yahvé soit avec vous, aussi certainement que je vous renvoie, vous et vos enfants. Voyez, vous n'avez en vue que le mal. Non pas ainsi. Allez donc, vous, les hommes, et servez Yahvé, puisque c'est ce que vous cherchez. On les chassa d'auprès de Pharaon. Yahvé dit à Moïse, étends ta main sur le pays d'Égypte, pour que viennent les sauterelles. Qu'elles montent sur le pays d'Égypte, qu'elles dévorent toute l'herbe du pays, tout ce qu'a laissé la grêle. Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte et Yahvé amena un vent d'est dans le pays. Tout ce jour-là et toute la nuit, le matin venu, le vent d'est avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent sur tout le territoire d'Égypte en nombre immense. Alors, on explique bien, il y a quelque chose de naturel, vous voyez, qui obéit à Dieu, le vent d'est et Moïse qui épouse. Mais alors, en même temps, on montre l'immensité. C'est pas comparable aux autres événements. Il y a quelque chose de nouveau. C'est toujours très difficile de faire le partage entre ce qui est la naturelle et ce qui est miraculeux. Il est évident que c'est posé ici comme quelque chose de tout à fait miraculeux. Alors, vous savez bien qu'aujourd'hui, on essaie de tout ramener par l'explication de la cause matérielle. Ça n'a aucune espèce d'importance, du reste. Le tout, c'est de comprendre la finalité profonde de ça. On ne peut pas expliquer, du reste, par la causalité matérielle, tout ce qui est montré là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Yahvé corrige le Pharaon. Et le corrige par les points sensibles. Et c'est ça qu'il faut regarder dans ces 10 plaies d'Égypte. Auparavant, il n'y avait pas eu autant de sauterelles que cette fois. Et dans la suite, il n'y en aura pas autant. Alors ça, ce sont des paroles qui arrivent souvent et qui sont très jolies. Rien avant, plus après. C'est dit pour Salomon, à propos de la sagesse. Personne n'a eu une sagesse aussi grande avant. Personne n'en aura plus après. C'est toujours très difficile, ça, à interpréter. Père Finet disait à propos de Marthe, personne, à part la Sainte Vierge, n'a été aussi uni à la passion de Jésus que Marthe. Personne après ne sera uni à Marthe. Oui. Alors, c'est un langage qu'on trouve dans l'Écriture. C'était Marthe qui avait dit ça au Père Finet, c'est pas le Père Finet qui l'avait inventé. Mais c'est un langage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Je crois qu'il ne faut pas le prendre matériellement. Il faut le prendre spirituellement, comme un grand sommet que Dieu montre, ou un grand creux quand il s'agit d'une punition. Auparavant, il n'y avait pas eu autant de sauterelles que cette fois. Et dans la suite, il n'y aura pas autant. Il n'y aura plus autant. Elles couvriront la face de tout le pays et le pays en fut enténébré. Elles dévorèrent toute l'herbe du pays et tous les fruits des arbres qu'avait épargné la grêle. Rien de vert ne fut épargné, ni aux arbres, ni à l'herbe des champs, dans tout le pays d'Égypte. Une calvitie parfaite, hein, c'est absolument ça. Tout est mangé, absolument mangé, l'herbe partout, tout ce qu'il y a de vert disparaît. C'est extraordinaire comme vision. Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron. Il dit, la hâte du Pharaon, première fois. J'ai péché contre Yahvé, votre Dieu. et contre vous. Vous voyez, la conversion s'approche de plus en plus. Hein? Mais maintenant, daigne pardonner mon péché encore une fois et implorer Yahvé, votre Dieu, pour qu'il écarte de moi tout au moins cette mort. Yahvé sortit de chez Pharaon et implora Yahvé. Yahvé fit virer le vent en un vent d'ouest très fort qui emporta les sauterelles et les précipita dans la mer des joncs. Et il ne fut pas laissé une sauterelle dans tout le territoire d'Égypte. Yahvé fit s'obstiner le cœur du Pharaon et ne renvoya pas les fils d'Israël. Oui, théologiquement, toujours très difficile à bien comprendre. Hein. Yahvé fit s'obstiner. Vous savez bien que c'est à partir de ces affirmations-là que Calvin n'hésite pas de dire qu'il y a prédestination et réprobation. Donc, il prend ça à la lettre. C'est Yahvé lui-même qui a empêché Pharaon d'accepter les signes de Dieu et donc de s'opposer. Ça existe comme interprétation. C'est faux. L'Église l'a condamné. On n'a pas le droit de dire ça. Parce que, alors à ce moment-là, on dirait que Dieu est cause directe du mal. Vous vous souvenez quand on avait lu ce passage dans Platon ? Dieu est bon, Dieu ne peut pas être cause directe du mal. Et c'est vrai, Dieu ne peut pas être cause du mal, immédiatement. Le mal n'a pas de cause propre, comme telle. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire la science du mal. Il n'y a que le péché qui a une cause propre, l'orgueil. Et le mal, comme tel, n'a pas de péché de cause propre. Et c'est une manière de parler qui nous est montrée ici. Et cette manière de parler consiste justement à montrer que c'est comme si Dieu donnait cette espèce de cécité. Mais en réalité, c'est l'homme qui lui-même, à cause de son orgueil, n'accepte pas la correction de Dieu. On est comme ça. Hein? Évidemment, c'est un peu moins spectaculaire que pour le Pharaon. Pour le Pharaon, c'est très spectaculaire. Mais on est comme ça. Il y a des tas de choses que Dieu nous indique et que nous ne comprenons pas. Yahvé dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel pour qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et qu'on puisse palper les ténèbres. » Vous voyez, 3 jours de ténèbres, et toujours dans les prophéties, hein, les 3 jours de ténèbres qui doivent arriver avant les moments particulièrement périlleux, les ténèbres, et palper les ténèbres. Il y a toute une des fantasmes, on pourrait dire une imagerie eschatologique qui est importante à comprendre parce que ce sont des symbolismes divins, c'est pas simplement des symbolismes inventés et il faut essayer de les détecter et les 10 plaies d'Égypte sont le lieu par excellence. Hein. C'est pour ça que je les lis avec vous, c'est un peu une répétition, mais c'est parce que c'est important d'essayer de comprendre ce symbolisme divin. C'est un symbolisme qui est là, présent, pour nous faire comprendre comment Dieu intervient directement et fait que le peuple d'Égypte, à cause du Pharaon, c'est ça qui est terrible, à cause du tyran. Comment le peuple d'Égypte subit tout cela ? Moïse étendit sa main vers le ciel et il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre et personne ne se leva d'où il était pendant 3 jours. Et pour tous les fils d'Israël, il y avait de la lumière dans les lieux où ils habitaient. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez Yahvé, que demeure seulement votre petit et votre gros bétail. » vos enfants aussi pourront aller avec vous. Moïse dit, tu dois remettre toi-même en notre main les sacrifices et les holocaustes que nous ferons à Yahvé, notre Dieu. Nos troupeaux aussi viendront avec nous. Il ne sera pas laissé un sabot, car c'est d'eux que nous prendrons de quoi servir Yahvé, notre Dieu. Et nous-mêmes, nous ne saurons comment servir Yahvé, puisque jusqu'à notre arrivée là-bas, Yahvé fit s'obstiner le cœur du Pharaon. Il ne consentit pas à les renvoyer. Pharaon dit à Moïse, « Va-t'en loin de moi, garde-toi de paraître devant moi, car au jour où tu paraîtras devant moi, tu mourras. » Moïse dit, « Tu as bien parlé, jamais plus je ne paraîtrai devant toi. » Yahvé dit à Moïse, « Il y a encore une plaie que je vais faire venir sur Pharaon et sur l'Égypte. Après quoi, il vous renverra d'ici. Quand il vous renverra, ce sera tout à fait. Il vous chassera même d'ici. Parle aux oreilles du peuple pour que chaque homme demande à ses voisins et chaque femme à sa voisine des objets d'argent et des objets d'or. Yahvé fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens. De plus, l'homme qui était Moïse était très grand au pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs du Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle Yahvé. Alors on assiste à la dixième, et c'est la dixième qui va être la grande sortie. Ainsi parle Yahvé, vers le milieu de la nuit, je vais sortir à travers l'Égypte. Tout premier-né mourra dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, qui doit s'asseoir sur son trône, jusqu'au premier-né de l'esclave qui est dernière, qui est derrière la double meule, et tout premier-né du bétail. Il y aura dans tout le pays d'Égypte une grande clameur, telle qu'il n'y en a jamais eu de pareille, et telle qu'il n'y en aura plus de pareille. Mais comme aucun des fils d'Israël, pas un chien ne pointera la langue, ni contre les hommes, ni contre les bêtes, afin que vous sachiez que Yahvé fait une distinction entre l'Égypte et Israël. Tous les serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront devant moi en disant, sors, toi et tout le peuple qui est sur tes pas. Après quoi je sortirai. Moïse sortit de chez Pharaon, enflammé de colère. Yahvé dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera pas afin que se multiplient mes prodiges au pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent donc tous ces prodiges devant Pharaon. Mais Yahvé fit s'obstiner le cœur de Pharaon, et il ne renvoya pas les fils d'Israël de son pays. Alors on commence après le grand mystère de la Pâque. C'est bien important, vous voyez, de voir comment se situe cette première Pâque. La Pâque n'est pas du tout instituée comme un culte uniquement de louanges. La Pâque n'est pas du tout instituée uniquement comme un culte d'adoration. La Pâque est constituée en premier lieu comme une intervention de Dieu pour sauver son peuple. Une intervention de Dieu auprès de toute famille d'Égypte. Et c'est la famille. Ce n'est pas l'individu comme tel, c'est la famille. Et c'est à l'égard de la famille. C'est vraiment la famille du Pharaon et toutes les familles qui sont frappées. C'est très important parce que on n'a pas tellement parlé de la famille jusqu'ici. On en a parlé avec le patriarche. Mais vous voyez, ça rejoint l'idée foncière de Dieu sur la famille. Et je crois que c'est ça qui est important à souligner. C'est que de fait, le dernier signe qui est donné est un signe qui a cette dimension particulière qu'elle regarde la famille. Et c'est là où le Pharaon sera touché dans son cœur de père. Et c'est là où l'efficacité de ce signe aura une efficacité toute différente des autres.